des Champions, c'est du football. Ce soir à Gerland, les Lyonnais sont confrontés au Real de Madrid en huitième de finale aller. Une véritable affiche qui débutera à 20h45.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Rendez-vous pour des enregistrements du Jeu des 1000 euros. Aujourd'hui dans le Bas-Rhin, à Brumath, à 18h30. Et demain en Moselle, à Agondange, à 18h30 également. Les sélections se font sur place à la même heure.
France Inter. La différence.
Il est 15h, passé de 4 minutes. Vous écoutez France Inter, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
Bonsoir, il est 21h30. On est le lundi, je suis en train de regarder Al Jazeera. Ils sont en train de nous faire passer des images atroces des corps mutilés, cramés, carbonisés, morts, déchiquetés par les balles, par les aviations qui est tirées sur le peuple libyen. C'est des photos, c'est horrible à voir. Même ils étaient masqués dans certains cas pour ne pas toucher la sensibilité des gens. Vraiment, c'est catastrophique, catastrophique. S'il vous plaît, le monde entier, faites quelque chose. Arrêtez ce fou, il est en train de... d'exterminer un peuple civil innocent. S'il vous plaît, faites quelque chose, faites quelque chose. C'est très très atroce ce que je vois. C'est impossible de ne pas réagir. C'est impossible, c'est impossible. Bonsoir et à vous et bon courage.
Eh bien, salut Daniel, je suis Philippe. Et je me suis fait une petite réflexion, surtout au regard de l'actualité dans les pays arabes. Et je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qu'est un pays en paix au regard de nos dirigeants ? Eh bien, je crois que c'est tout simplement un pays dans lequel les pauvres acceptent d'être pauvres. Eh bien, voilà. Salut, Daniel.
Bonjour, Sophie de Lyon. Il faut que nous, les Français, nous manifestions absolument notre soutien au peuple libyen. Et il faut que nous soyons nombreux. J'ai honte de mon pays quand ses représentants, tandis que des gens meurent, et je ne sais pour quel petit intérêt, car tout est petit face à la gravité de ce qui se commet là-bas en ce moment, ose garder le silence. J'ai honte du message qu'il véhicule en notre nom. Comment prônerions-nous la liberté d'expression quand nous serions incapables de la défendre aux yeux du monde, ces valeurs qui nous sont chères? En matière de diplomatie, ne rien dire est un acte. Et cet acte est celui d'une complicité d'assassinat contre un peuple qui tente de se lever. Je vous demande, chers AMG, mais aussi tous mes frères et sœurs français, de joindre votre parole à la mienne, de toutes vos façons, de dire votre soutien au peuple libyen. Exprimons absolument notre soutien au peuple libyen et au peuple du monde arabe qui tente de se lever enfin.
Bonjour à tous. Il y aura une manifestation devant l'ambassade de Libye à Paris, aujourd'hui mardi, de 18h à 20h. Métro Cambronne ou Ségur. L'adresse est 6 rue Chasseloup-Lauba, dans le 15e. C'est pour mettre la pression sur le gouvernement français pour qu'il rompe toute relation avec le régime de Kadhafi. Merci pour l'émission. C'est Yann à Paris.
C'était pour dire non au jeudi vert, oui au jeudi noir, non au jeudi vert, oui au jeudi noir.
Bonjour là-bas si j'y suis. Je voudrais juste compléter la liste des valeurs de l'olympisme que vous avez commencé avec votre émission d'aujourd'hui, lundi, par un petit florilège de citation du baron Pierre de Coubertin. Alors en voilà une. À la race blanche, d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. Sympa, c'est pas mal, hein, j'en ai une autre. La théorie de l'égalité des droits pour toutes les races humaines conduit à une ligne politique contraire à tout progrès colonial. Ça aussi, c'est sympa, hein. Et puis, une petite dernière, pour finir en beauté, il y a deux races distinctes. Celle au regard franc, aux muscles forts, à la démarche assurée, et celle des maladifs, à la mine résignée et humble, à l'air vaincu. Eh bien, c'est dans les collèges comme dans le monde. Les faibles sont écartés, le bénéfice de cette éducation n'est appréciable qu'aux forts. Voilà, ça c'est beau, ça on aime, hein. Voilà. Je pense que c'est des valeurs de l'olympisme, la discrimination, le racisme, l'élitisme sportif un peu national-socialiste, là, qu'on oublie de rappeler à chaque Jeux Olympiques. Et c'est dommage, parce qu'elles mériteraient d'être encensées aussi. Enfin, voilà, je trouve que ça... Il fallait les rappeler aussi. Merci pour votre émission. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Pierre d'Annecy. Bon, ben, je suis en train d'écouter votre émission sur Annecy. C'est une fois de plus génial. Donc, vous faites la part belle à un élu du NPA d'Annecy, qui je crois très important, et puis qui parle au nom de tous les Annéciens. Donc ben moi je suis d'Annecy, hein, de Pringy exactement, donc en plus sur notre commune il y aurait le village olympique. L'ambiance générale est qu'on est très content de la candidature des Jeux, si on pouvait là les avoir ce serait très bien. Alors évidemment vous n'êtes jamais content, vous êtes toujours dégueulard, comme le dit très bien Daniel Mermet d'ailleurs. Mais bon, ben, ce serait pas mal, ça serait une bonne bouffée d'oxygène, j'ai plein de jeunes autour de moi qui sont au chômage, ça les ferait bosser. Ça ferait beaucoup d'infrastructures, ça ferait beaucoup de rentrées d'argent. Et puis justement, pour un petit peu contrer notre camarade du NPA, là, qui dit un peu n'importe quoi, justement, il se plaint comme quoi il n'y a pas assez de moyens sur Annecy, et bien ça en développerait plein. C'est-à-dire que les gymnases seraient plus grands, des infrastructures sportives qui existent déjà beaucoup, parce que c'est une ville qui est très sportive, seraient agrandies. Tout ce qui serait au niveau des routes serait amélioré, l'accès à des stations, etc. Tout en préservant au mieux l'écologie. Donc voilà, alors soit on resterait trop grade et puis on reste comme ça, soit on essaie d'avancer. De dire que justement, les Jeux Olympiques boufferaient la place des infrastructures sportives, même si c'est une utopie, au contraire, ça les agrandirait et puis ça les améliorerait. Et beaucoup de professeurs d'éducation physique, parce qu'a priori ils parlaient en leur nom, ne sont pas d'accord avec ce monsieur. Donc c'était Pierre d'Annecy, et puis en espérant qu'on ait les JO, comme ça au moins nous on aura le sourire pendant que vous ferez toujours la gueule, parce que c'est un petit peu votre quotidien. Allez, ciao, et la vie est belle, ciao.
Dites donc là-bas si j'y suis, c'est quoi ce mauvais esprit? Je croyais que Radio France était partenaire de la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques. Bon, puisque vous tenez tant à être négatif, bienvenue parmi les Alpins contestataires. Nous, à Grenoble, on a échappé à la calamité de 2018, puisqu'Annecy a été préférée à notre ville. On n'est pas dupes, on sait que des Jeux Olympiques en Haute-Savoie accéléreront le saccage du territoire jusqu'à chez nous. Vous savez pourquoi? Parce que le vrai projet des élus locaux, c'est de créer une métropole unique de 220 km de long et de 2 millions d'habitants entre Genève et Valence, qu'ils appellent le sillon alpin, pour nous donner enfin une dimension européenne. Parce que vivre dans des villes à taille humaine, ça n'est ni compétitif, ni performant. Les Jeux Olympiques à Annecy seraient un accélérateur pour ce projet mégalo et destructeur que nous refusons. Voilà pourquoi Grenoblois, Chambériens, Chamoniards, Genevois, nous disons tous avec les Annéciens du comité anti-olympique, moins haut, moins vite, moins fort. Et bien sûr, CIO dehors. Ciao.
En 92, les JO d'Albertville ont coûté 252 millions au département de l'Ain, car à la fin des JO, il faut savoir que c'était tellement déficitaire, le département étant à droite, Barnier a demandé à ses copains de valider une subvention de 252 millions de francs. Donc voilà, les capitalistes ont toujours raison, faire payer deux fois. Maintenant l'autoroute à qui était distribuée les 252 millions est payante. Donc on a payé les 252 millions plus l'autoroute payante maintenant. Merci les capitalistes. Allez, c'était Fred Delin.
Merci à tous pour tous ces messages. Vous voyez que l'histoire des Jeux olympiques d'hiver d'Annecy en 2018 n'est pas une question qui vous désintéresse. grosse affaire, c'est pas gagné du tout et c'est pas évident du tout, ça bouge en tout cas dans le répondeur de là-bas si j'y suis. Oui au sport, non au score. C'est une formule d'Albert Jacquard qui peut nous servir pour ce deuxième volet, pour ouvrir ce deuxième volet de cette question passionnante. À Annecy, on est très très loin de Bahreïn ou de Tripoli, on s'inquiète sur y aura-t-il ou non les Jeux, aurons-nous ou non les Jeux, et bien on va essayer d'apporter aujourd'hui avec Julien Super Brigaud des indications, des éléments d'appréciation contradictoires. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut. Bon, bah l'heure est grave, hein, la Libye se soulève. Une question se pose au gouvernement français, là, quand même, c'est où Michel Alliot-Marie va-t-elle pouvoir passer ses vacances? Parce que le Maroc, il y a des manifs, il reste quoi, la Corée du Nord? Ouais, la Corée du Nord, mais bon, il fait moins beau. Voilà, c'est une suggestion. Salut!
Oui, bonjour, je suis la belle-fille de Michel Hervé, qui a disparu dans la région de Saint-Herblain mardi dernier, ça fait une semaine. On est complètement désespérés parce qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer et de diabète et que le procureur refuse pour le moment de lancer un avis de recherche. Donc on ne sait plus quoi faire. On a distribué des tracts absolument partout parce qu'il est susceptible d'aller dans la région de Vannes ou de Lorient car il sait faire du stop et prendre le train. Il n'a que 63 ans. si quelqu'un le voit, si quelqu'un a des contacts, merci de nous prévenir au 06 87 20 77 02. Je vous remercie et au revoir.
Donc la ville
France 3
qui a été retenue par le conseil d'administration
18 mars 2009
est la ville d'Annecy.
Annecy, élue dès le premier tour de scrutin par le comité national olympique. Annecy sera candidate pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2018.
En fait, c'est pas les Jeux qui payent les Jeux, c'est bien les habitants qui payent les Jeux.
On va se battre tous ensemble.
Nicolas Sarkozy.
Pour essayer de les gagner.
11 février 2011.
Mais c'est comme ça, si vous saviez, si dans la vie, mais chacun ici, c'est bien. Si dans la vie, on ne tentait que ce qu'on était sûr de réussir, mais on reste couché toute la journée. C'est parce que... Si vous savez, moi, pour devenir président de la République, c'est un très long chemin. C'est pire que pour les JO d'Annecy. Alors vraiment, il n'y a personne qui croyait.
Les JO, pas encore une réalité pour Annecy, déjà du rêve pour la jeunesse.
Edgar Grandpierre.
C'est de voir déjà dans leurs yeux qu'il y a des étoiles. Il y a des regards comme ça, super lumineux, et c'est fantastique.
26 ans après Albertville, Annecy veut accueillir les Jeux d'hiver. Au programme, le ski alpin Chamonix, Morzine et Avoria, le bobsleigh à la Plagne, le ski nordique à la Clusaz et au Grand Bornand.
Il y a des gens qui sortent des banderoles au bord de la route tout de suite, les flics arrivent.
L'objectif final, c'est de pourrir la candidature. Cette candidature, elle soit montrée sous son vrai visage et pas celui qui veut être présenté par les promoteurs.
Vous savez, hein, quand les Jeux sont partis, hein, qu'ils en veulent, qu'ils en veulent pas, la piscine patinoire se fera. Hein. Voilà.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis avec Julien Super Brigot. Annecy 2018, oui, au sport, non, au score.
On est donc arrivé à l'hôtel Alpina, la suite de... Donc là, on aperçoit la liste des sponsors, partenaires officiels de Annecy 2018. Le groupe BPCE, la Compagnie Nationale du Rhône, Adidas, la Française des Jeux, Tarket, Orange, EDF, Somfy, Lagardère, Radio France, Direct Soir, France Télévisions, la RATP, la SNCF, les aéroports de Lyon et les autoroutes du tunnel du Mont-Blanc. Voilà.
Évidemment, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ce feu d'artifice, ces étoiles dans les yeux du public, cette passion, ce rêve, ces valeurs de l'olympisme. Évidemment, c'est merveilleux. Et on veut tous, ou presque tous, que ces JO soient en France. Presque, vous avez entendu, il y a quand même pas mal de grincheux et de bémols. Peut-être à cause de ce que j'ai sous les yeux, un contrat type qui se passe entre toute ville hôte des Jeux et le Comité international olympique. Voilà un tout petit extrait. Écoutez bien. La ville et le Comité national olympique déclarent et garantissent que toutes les personnes titulaires d'une carte d'identité et d'accréditation olympique seront exemptes de toute limitation ou restriction relative à la réglementation du travail dans le pays hôte pour toute activité professionnelle menée par elle en relation avec les Jeux durant cette période. Voilà, si vous comprenez bien, eh bien, les lois du travail, enfin la législation sur le travail ne s'applique pas pendant cette période. Et ça, la ville doit le signer. Il y a un nombre incroyable de restrictions, de lois qui sautent en matière d'espace public, d'impôts et de taxes, de droits d'exploitation, de culture, etc., de lois en général, pendant les Jeux. Pendant les Jeux et pendant une partie de la préparation des Jeux. Étonnant, non ? Étonnant. Voilà, ça peut peut-être faire réfléchir certains et en faire grincer un certain nombre. Et puis alors, cet auditeur évoquait Pierre de Coubertin, parce qu'évidemment, Pierre de Coubertin, c'est les valeurs, c'est le dépassement de soi, c'est la participation, c'est la fraternité, c'est la disparition des frontières, etc. Qui était exactement ce Pierre de Coubertin et que disait-il, par exemple, en ce qui concerne les races ? Les races sont de valeurs différentes et à la race blanche, d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. Ah bon ? La théorie de l'égalité des droits pour toutes les races humaines conduit à une ligne politique contraire à tout progrès colonial. Bon. Dès les premiers jours, j'étais un colonialiste fanatique. Voilà, ça il le dit en 1936. Concernant le nazisme, la glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'ils ont connu. Bon, les femmes. Il est indécent que les spectateurs soient exposés au risque de voir le corps d'une femme brisé devant leurs yeux. En plus, peu importe la force de la sportive, son organisme n'est pas fait pour supporter certains chocs, etc., etc. Vous me direz que, bon, oui, je vais chercher des choses quand même, mais c'est quand même bien de cela dont il est question. Quand on exalte l'esprit de l'olympisme et qu'on se réfère à ce Pierre de Coubertin, alors voilà ce que ça représente pour une ville, pour une région, pour la forme, pour le développement, et puis sur le fond idéologique. Ça vaut le coup quand même de s'intéresser à ce qui risque de se passer à Annecy en 2018. Effectivement, on reviendra sur ce qui s'est passé la dernière fois à Albertville. Le bilan est, disons, nuancé. Voilà, une heure à Annecy, avec la bonne phrase d'Albert Jacquard, « Oui au sport, non au score !»
Dans le soleil couchant, sous la flamme qui danse, la neige a des secrets d'argent, de bronze et d'or. Ce soir, tous les regards se tournent vers la France, aux couleurs enlacées des cinq anneaux du sport. Pour voir un jour enfin, sous les drapeaux du monde, unis vers la lumière et dans un seul élan, le cœur de tous les hommes, la même seconde, atteindre la plus noble idée de tous les temps. S'élever au-dessus des cimes infranchissables et chercher ses limites au seuil de l'inconnu, pour gravir un instant trois marches inoubliables et goûter la saveur d'un bonheur absolu. Il faut vouloir semer la fleur de l'impossible, deviner le soleil plus loin que l'horizon, emprunter des sentiers qui semblent inaccessibles et dessiner des rêves au mur de nos prisons. Lancer comme un défi son cœur vers les étoiles, y travailler sans fin pour l'amour de l'effort, apprivoiser sa peur et le jour de la flamme, être le magicien qui fait jaillir de l'or.
Ses nuages, Annecy et son lac,
TF1,
si proche de la vallée de Chamonix qu'il aurait été dommage de ne pas en profiter.
11 février 2011.
Super station, les gens sont sympatoches,
par Belleville. Une réputation qui n'est plus à faire. Voilà pourquoi, dans sa conquête à l'organisation des Jeux Olympiques de 2018, Annecy a fait de Chamonix et de son Mont Blanc mondialement connu le deuxième pôle de sa candidature.
Soyez bienvenue à la Pusa, qui recevra le site de ski de fond.
Depuis deux jours, une délégation du CIO, le Comité international olympique, inspecte chaque site. Examen de passage décisif. Tout à l'heure, les 11 membres s'arrêteront ici pour apprécier le panorama.
Avant d'aller à l'aiguille, vous en avez pour combien de temps encore là ?
Tout doit être parfait. Chaque détail compte, car même si 2018, c'est encore loin.
2018, j'aurai 17 ans.
Tout se joue maintenant.
Demander de rentrer avec lui dans l'espace journalistique.
Moi j'ai pas de. Au niveau du son, ça m'intéresse pas.
Ouais, mais en fait, vous avez pas le droit. On a pas le droit. Tu vois, les journalistes qui sont avec nous, ils sont obligés d'être. Soit tu sors du concept, et du coup après tu fais ta vie et on t'attend plus. Soit tu rentres dans le cadre, et du coup par contre tu es obligé de suivre les journalistes.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc là, faut rentrer dans le petit parc. Ok, allez-y. Merci. Voilà, donc on y est, on est dans le parc. Entouré de belles petites barrières, avec marqué toujours le slogan Annecy 2018 Snow, Ice and You. Tout est réglé au poil.
Voilà, voilà, ça va être bien, hein. Oh, étoile des neiges. Formidable en 2018, les Jeux Olympiques. À Annecy, on y croit, on en sourit d'avance, on est tout heureux. Annecy est tout un territoire Savoie-Mont-Blanc. On le désire d'organiser des Jeux au cœur des montagnes, dans un cadre réellement authentique, sur un terrain de jeu naturellement doté des ingrédients, essentiels au sport d'hiver. Annecy 2018, c'est aussi la volonté d'offrir des jeux à taille humaine, sans démesure, exprimant la simplicité des gens de montagne et l'attachement aux valeurs essentielles. Les valeurs essentielles, on les a évoquées à l'instant avec Pierre de Coubertin. Alors, il y a la simplicité, parce qu'évidemment, les reproches qui sont faits, qui ont été évoqués hier, qui sont bien connus à l'olympisme et au Comité international olympique, les histoires de corruption, souvenez-vous de Salt Lake City, les histoires de dopage, les histoires de toutes sortes, de népotisme, etc. Quand on soulève ces questions, quand on soulève ces objections, on a des gens qui disent « oui, oui, c'est vrai, eh bien écoutez, on a tiré des leçons du passé, et maintenant, la prochaine fois, et dans ce projet, ça va être très différent. Là, par exemple, ça va être dans très, très écolo. Hein, ceux de 2018 sont très, très écolo. Développement durable. Il faut que vous mettiez développement durable dans toutes vos phrases maintenant, aujourd'hui. Vous mettez durable, vous allez voir, ça marche très bien. Et puis, vert. Il faut faire du greenwashing. Hein, il faut repeindre tout en vert. Et voilà, c'est la tendance, la modestie, les choses simples, pas de grands flonflons, pas de choses extraordinaires. Voilà. C'est à chaque fois, et puis, boum, ça c'est comme les alcooliques qui promettent d'arrêter, et ça reprend, et ça repart. En tous les cas, nous avons, nous, pour tout comprendre, notre Julien Superbrigo, qui vous avez vu, est rentré dans le cadre et dans le petit parc avec ses congénères journalistes.
Allez, on va les prendre dans l'ordre. Tout à gauche, t'as les gars des remontées mécaniques. Après, juste à droite, là-bas, c'est le service des pistes, les secours. Après, tu as l'armée, je pense que c'est le 27e BCA. En bleu, c'est peut-être le PGHM, les pompiers, évidemment les moniteurs de ski, la compagnie des guides de Chamonix, la chorale de la compagnie des guides de Chamonix en costume traditionnel, le 27e BCA en tenue de combat de montagne, les cuisiniers de Chamonix qui sont représentés aussi, puisque à Chamonix, il y a de très bonnes tables. Et puis, on termine avec les clubs des sports. Donc, le club de hockey, les patineurs, les skieurs, enfin, voilà, tous les sportifs. Voilà. C'est le plus grand studio naturel du monde. C'est le plus beau studio naturel du monde. Ils ont le décor, ils ont les modèles. Donc,
carte postale.
C'est carte postale. Il y a du monde sur la photo. Hein.
Charles Becbédé, président d'Annecy 2018. Charles Becbédé, c'est ancien postulant à la direction du MEDEF, le patronat, célèbre pour avoir désigné le Code du travail comme la principale entrave à la création de richesses en France. Voilà, donc la photo
Les membres du comité olympique passent à notre côté. Donc là, évidemment, les agents de la communication nous bloquent le passage.
Ils avaient promis une candidature menée par des sportifs.
On a quelques champions là, quand même.
TF1.
Pourtant, le nouveau patron d'Annecy 2018 n'est pas un champion, mais un homme d'affaires. Il s'appelle Charles Becbédé.
10 janvier 2011.
Je suis un fan et un passionné des sports d'hiver. Et puis, je vais mettre donc toute mon énergie, mes réseaux, mon enthousiasme au service de cette candidature.
Depuis la démission du directeur général Edgar Gros-Piron il y a un mois, la candidature française semblait s'éparpiller.
Voilà, donc on va prendre le téléphérique, on va monter avec l'adjoint au maire, le directeur de l'urbanisme.
I'll just tell you a little bit of information. You're about to go to come to the top of the Aiguille du Midi. It's 3,842 meters. The view should be nice, and as I said, if you call, please ask, we'll give you some additional equipment.
Vous faites partie du comité d'organisation.
Je suis Marcel André et je suis à l'association Impliquons-nous, qui est à l'origine de la candidature ou de l'idée des Jeux Olympiques sur Annecy ou Savoie. Ce sont deux amis qui nageaient dans la piscine d'Annecy et qui se disaient, mais pourquoi on ne créerait pas un événement sur Annecy, mais vraiment un événementiel. Donc ils ont cogité, ils ont cherché, puis ils se sont dit, pourquoi on ne serait pas l'idée des Jeux Olympiques d'hiver à Annecy et la Haute-Savoie. On a toutes les structures. Et l'idée est partie comme ça, et on crée une association qui s'appelait Olympiquons-nous. Et puis, voilà, les politiques ont repris l'affaire il y a que quelques années. Et à partir de ce moment-là, dès lors qu'on dépose un courrier, un dossier au Comité national olympique et sportif, nous n'avions plus le droit de nous appeler Olympiquons-nous, c'est-à-dire d'utiliser le mot olympique, qui a le label du CIO. Donc on s'est appelé après Impliquons-nous. Voilà.
Bonjour, Antoine Deneria. Donc, j'ai été champion olympique de descente à Turin en 2006. Et puis donc je suis un des ambassadeurs sportifs de la candidature d'Annecy.
Alors pourquoi c'est important d'avoir les JO à Annecy ?
C'est important pour plein de choses. Je pense qu'on a un formidable territoire pour organiser des Jeux. Dans l'esprit, je pense vraiment dans l'esprit olympique, avec un environnement fantastique, des montagnes exceptionnelles. C'est ici que sont nés les Jeux Olympiques d'hiver avec Chamonix en 1924. Et puis il y a une énorme expérience de l'organisation de grands événements, de compétitions. On a un territoire et des gens qui respirent le sport. Et puis ça serait surtout une formidable chance pour la région et puis la France entière, au niveau développement, au niveau social, économique, pour les jeunes, les enfants. Ça pourrait permettre de développer de nouveaux emplois, enfin de redynamiser la région. Donc je pense que c'est beau et puis ça permettrait de donner du rêve à beaucoup.
Of the Rhône-Alpes region of France is forested. Therefore, it is only natural that Annecy 2018 should work with the wood sector to develop the future media village.
Film promotionnel pour la candidature d'Annecy.
Florence Masnada
à l'organisation des Jeux Olympiques de 2018.
Olympic medalist and Annecy 2018 committee member.
Imaginez, pour l'instant, il y a rien, mais imaginez, il va y avoir un super village pour les médias. Les médias soient dans un confort maximum pour travailler au mieux et retransmettre au mieux les images des Jeux Olympiques d'Annecy 2018.
This concept means that after the Winter Olympics, these temporary structures can be reused.
Et on va ensuite démonter ces bâtiments et puis on va les remonter en station.
Using wood to build accommodations which will be given a whole new lease on life after the Olympics, that's the ultimate goal of Annecy 2018.
Ce qu'on pense, en fait, c'est que ce village servira de référence et d'exemple pour les prochains événements internationaux.
Bonjour. Donc,
Assis.
Alors là, vous cultivez quoi? Là, ce sont vos champs, c'est ça, ce qu'on voit,
c'est ces grandes étendues? Ça, c'est aux voisins, mais nos champs, ils sont bah, tout ce qui est au bout, quoi. Donc, si jamais ça, les Jeux ou le village olympique se fait par ici, bah, nous, on n'a plus rien pour faire pâturer les bêtes et puis pour faire nos fourrages, quoi. Donc, l'exploitation ne sera plus viable, quoi.
C'est-à-dire, ils veulent construire ici des...
Bah, ils disaient qu'ils voulaient faire le village. Alors, on ne sait pas trop les plans parce que je pense qu'ils essayent un peu de voir où ça gueule le plus... Ou ça gueule pas, donc on sait pas trop avec ces gens-là, quoi.
À aucun moment ils sont venus vous voir pour vous dire bon, on aurait éventuellement un projet.
Ah non, c'est aujourd'hui, c'est on va vous exproprier, on va vous donner tant du mètre et puis bah faut fermer votre gueule, quoi. Il y a des gens qui sortent des banderoles au bord de la route tout de suite, les flics qui arrivent, ranger la banderole, donc.
Ça vous est arrivé?
Ah, moi ça m'est arrivé, oui, j'avais accroché des banderoles là-bas, un quart d'heure après les policiers étaient là, quoi. Donc moi je leur ai dit c'était propriété privée, ils ont rien à y foutre. La liberté d'expression aujourd'hui quand même.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la maman?
L'exploitante.
Alors c'est vous la chef de file de la contestation sur ces terres-là?
Oui, un tout petit peu, oui.
Alors qu'est-ce que vous leur reprochez à ces Jeux Olympiques après tout? C'est de l'emploi, de la croissance, de l'écologie, puis du rêve dans les yeux des enfants?
Non. C'est les JO comme ils les voient, c'est des JO imbéciles. Il y a plein de sites qui pourraient accueillir, qui ont déjà accueilli les Jeux Olympiques dans les années avant, et on pourrait utiliser ces sites sans en refaire d'autres. Ils veulent construire du neuf sur les autres, voilà.
Et vous, ça vous arrange pas, ça?
Non, parce que j'ai pas encore donné le journal à mes vaches. Donc, faut bien que je leur donne de l'herbe. S'ils me plantent quelque chose dessus, du béton, elles vont peut-être pas apprécier non plus.
Vous aussi, vous étiez derrière les banderoles qui ont été enlevées par les policiers, alors?
Non,
c'est ça?
J'étais derrière les banderoles qui n'ont pas pu enlever.
Qu'est-ce qui avait marqué sur ces banderoles?
Non, JO. Et le drapeau des Jeux Olympiques barré, que j'ai mis personnellement en place. Voilà.
Vous l'avez mis où?
En haut du tas de fumier. Elle y est encore, hein. Elle est très jolie. Parce que quand on découvre des plans dont le village olympique est sur notre maison, là, il n'y a personne qui vient nous dire on va peut-être vous allez peut-être être obligé de partir. Et personne n'est venu. C'est bien dommage. S'il faut se battre, on va se battre.
Oui, alors évidemment, ça fait drôle le jour où vous voyez que le village olympique va être implanté sur votre maison. Ça vous semble drôle. Voilà, donc le drapeau noir flotte sur la marmite hein, à Annecy. Et il n'y a pas que des gens heureux et des gens qui s'enthousiasment pour ces Jeux de 2018.
Je m'appelle Jean Vullier et je suis paysan en vallée de Thônes, donc entre les Annecy et les Aravis. Oui, moi je suis d'abord agriculteur, paysan de montagne, hein, producteur de fromage de chèvre et aussi membre de la Confédération paysanne.
Quel est le nombre d'hectares qui sont concernés éventuellement par les futurs sites olympiques?
Alors si on en croit les déclarations officielles, entre autres le Conseil général, il nous annonce 2 hectares agricoles consommés au final. Donc évidemment, on ne peut pas croire de pareilles balivernes, puisque ne sont pas tenus en compte, entre autres, des tas d'infrastructures nécessaires en dehors des infrastructures principales. Il y a des routes, des parkings, il y a des aménagements. Alors non seulement on va occuper ces espaces, mais en même temps, on va donner l'envie à d'autres gens de venir en Haute-Savoie. On est un département qui est quand même essentiellement montagneux. Il a une croissance de population qui est de l'ordre de 10% par an. C'est faramineux. Et en plus, des gens avec un haut niveau de vie qui consomment beaucoup d'espace, qui font des habitats individuels, qui mitent le territoire. On est dans un système un peu pavillonnaire et qui rendent l'activité agricole quasiment impossible. Nos territoires, ils vont être fortement rendus attractifs et du coup, nous, en tant que paysans, on trouve plus notre place.
C'est le volet rénovation rurale qui a les mêmes effets que la rénovation urbaine, c'est-à-dire attirer des populations qui ont des revenus supérieurs et qui engendrent comme ça des modifications substantielles.
Oui, et on en est à un stade où on s'interroge si nos enfants vont pouvoir continuer à vivre ici. On voit que maintenant, ça devient difficile de se loger. Oui, on trouve le phénomène urbain, et j'y avais jamais trop pensé, mais le phénomène urbain qu'on peut constater de gentrification, la Haute-Savoie, elle en est victime dans son milieu rural. On est en train, finalement, sur ce dossier, de se rendre compte qu'une partie de la population soit prête à se radicaliser et à s'engager plus fortement dans une action qui soit significative, au-delà de signer des pétitions ou de participer à une manifestation très pacifique.
Comme à Vancouver, l'action directe, quoi. C'est ça qui se profile globalement.
Voilà. Ouais, je crois qu'effectivement, en étant peu nombreux mais déterminés en action directe, on arrive effectivement à occuper le devant de la scène. Et l'objectif final, c'est de pourrir la candidature. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que cette candidature, elle soit montrée sous son vrai visage et pas celui qui veut être présenté par les promoteurs. S'installer là, peut-être il y a des caméras.
Le hall de la mairie un dimanche.
Voilà, un dimanche. Hein. Je m'appelle Philippe Perrier, je suis adjoint au maire, chargé des finances et des sports.
À la ville d'Albertville.
À la ville d'Albertville, oui.
D'accord, donc voilà. Qui a accueilli les Jeux Olympiques en 92.
92, oui. La candidature a été validée en 86. J'étais élu dans l'opposition à l'époque. Parti communiste, okay. Voilà. Je pense que les Jeux, c'est une belle fête et on ne peut pas être contre les Jeux. C'est quelque chose de magnifique. Hein. Mais par contre, il faut faire hyper attention. Ça, une candidature aux Jeux, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on peut être sous le feu des projecteurs. Donc il faut bien penser à ce qu'on va faire, à quoi ça va servir après. Ça, c'est hyper important. Les investissements olympiques ne nous ont pas coûté cher du tout. La halle olympique, la patinoire ne nous a pas coûté très cher. Ni l'anneau de vitesse non plus. Ce qui est problématique, c'est tout ce qui est autour, c'est tout ce que les élus veulent faire pour embellir leur ville. Et là, Albertville, on s'est surendetté à l'époque. Hein.
À combien s'élève la dette après JO ?
Je ne vais pas dire une bêtise, mais je pense qu'on n'était pas loin. Si on la transforme en euros, on ne devait pas être loin de 30 millions d'euros, je pense. Hein.
30 millions, ce sont des sommes qui ont été répercutées sur les impôts locaux ?
Oui. Oui, bien sûr, pour financer, bien sûr, c'est les impôts locaux qui ont financé tout ça. Hein. Bon. Il a fallu attendre les années 2003-2004 pour que nos impôts soient dans la moyenne nationale.
Ah ouais, soit, pendant 10 ans, vous avez eu des impôts qui ont été nettement supérieurs.
Nettement supérieurs à la moyenne nationale.
Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc si on se base sur l'exemple type d'Albertville, ouais. On pourrait également parler de Vancouver, on pourrait également parler de Turin.
Ouais.
En fait, le scénario se répète à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire que les promesses de budget sont toujours un peu à minima.
Voilà.
Après, le budget explose.
Voilà.
Et finalement, on a des dettes à rembourser qui se répercutent sur les autochtones, quoi.
Ouais, c'est ça.
Systématiquement.
Systématiquement, sachant qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, des leviers financiers, il y en a beaucoup moins qu'avant.
Voilà le témoignage de Philippe Perrier d'Albertville, qui, vous le voyez, n'est pas opposé aux Jeux Olympiques. Il ne fait pas partie de ces gens hostiles au sport qui n'aiment rien du tout. Non, il est assez pour les Jeux, mais il nous explique comment ça s'est passé à Albertville et comment peut-être en faisant du très mauvais esprit, ça risque de se passer à Annecy, si toutefois ça se passe à Annecy.
Et donc malgré ça, vous dites il serait bon que Annecy ait les Jeux Olympiques.
Oui, bien sûr. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une vraie vitrine pour une région. Si on veut développer le tourisme, si on veut développer l'emploi industriel, si on veut développer des réseaux routiers, c'est sûr que c'est formidable. Par contre, c'est le financement, moi, qui me pose problème. Comment ça va être financé? Nous, on avait dit, ça avait été dit en 92 que les Jeux devaient payer les Jeux. C'était le leitmotiv de l'époque. En fait, c'est pas les Jeux qui payent les Jeux, c'est bien les habitants qui payent les Jeux. Hein.
Ouais, ça, voilà. C'est ça. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai quand même un peu du mal à comprendre de votre point de vue, c'est que quand même les Jeux Olympiques, c'est vraiment une sorte de rêve capitaliste absolu, c'est-à-dire l'invasion de la publicité pendant cette courte période est très très fort. Les dommages écologiques environnementaux sont vraiment avérés, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, on dégage autant de CO2 qu'en 1 an, et donc c'est socialement, écologiquement et on va dire dans le domaine de l'invasion publicitaire, c'est vraiment une utopie capitaliste qui se réalise. Donc ce que j'ai du mal à comprendre, vous qui êtes
êtes communiste. Malgré ça, vous continuez à défendre cette utopie des Jeux Olympiques comme une fête populaire, mais qui finalement est financée par les gens. Alors expliquez-moi un petit peu.
Non, c'est vrai que pour moi, on peut être. C'est le symbole des Jeux qui est intéressant, le rassemblement des peuples autour de la paix. Par contre, après, il y a tout le reste, vous avez raison. Bien sûr que c'est pas normal, mais c'est pas ce que je veux. Ce que j'ai dit, je suis favorable à ce rassemblement des peuples et cette amitié qui existe pendant cette période olympique. Et cette symbolique de paix et de rassemblement. Ça, pour moi, c'est tout à fait favorable. Par contre, tout le reste, c'est sûr que c'est à réformer. C'est à revoir, c'est à rediscuter. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Peut-on moraliser les Jeux Olympiques comme on pourrait moraliser le capitalisme ?
Le capitalisme, on ne peut pas le moraliser. En lui-même, il est immoral. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les JO sont immorales. C'est son système financier, c'est aujourd'hui, qui est immoral. Après, bon, c'est sûr qu'il y a quand même une partie intéressante, c'est ce rassemblement des peuples. Voilà.
Victoire écrasante pour Salt Lake City.
France 2.
La ville accueillera les Jeux en 2002.
4 avril 1999.
Trois ans plus tard, un homme au cœur du système olympique dévoile les dessous du vote, puis se tait, rattrapé par la loi du silence.
Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi.
Mais pourquoi ? C'est l'omerta chez vous ? C'est
oui.
Quoi ?
Oui.
Plus de 14 millions de francs en argent, en cadeaux, en voyage, en bourse d'études. 14 membres au total auraient été achetés. Les têtes tombent.
L'onde de choc atteint l'édifice olympique, jusqu'à sa tête. C'est la crise ouverte dans un monde fermé.
Les actes d'un certain nombre de membres des CIO
Juan Antonio Samaranch
et du comité de candidature de Salt Lake City ont été inappropriés.
Président du comité international olympique.
Et étaient clairement contraires aux directives et politiques de notre organisation.
Oui, bonjour Jean-Marie Brome, je suis professeur de sociologie à l'université de Paul Valéry à Montpellier. Je milite contre le sport de compétition depuis une bonne quarantaine d'années. J'ai écrit plusieurs ouvrages, entre autres Le mythe olympique en 1981. Et j'étais dans l'équipe de France universitaire d'escrime. Voilà.
Oui, on l'oublie, Jean-Marie Brome, qu'on retrouve, était champion d'escrime jadis, donc il a pratiqué le sport, il est très critique aujourd'hui et depuis des années. Là, vous aviez une archive qui rappelait la crise ouverte dans un monde fermé, comme dit ce confrère. Effectivement, il y a eu des choses inappropriées, ce mot est extraordinaire, inappropriées. Voilà, ça s'appelle la corruption, des membres du comité olympique international ont été achetés, se sont fait corrompre, mais bien sûr, on a dit, oh, attendez, on va faire le ménage, et ça, c'est fini à tout jamais. Bien sûr, c'est la promesse qu'on fait à chaque fois. Il y a une chose à dire sur la critique radicale qui est faite du sport de masse, par certains. Il y a quelque chose parfois d'assez agaçant dans leur côté élitaire, je vois les choses de haut, face à cette masse de beaufs abrutis qui braillent tous en même temps. Il y a quelque chose quand même qui parfois a un petit parfum de racisme social dont il faut tenir compte assez souvent. On retrouve Jean-Marie Brome.
Quelle est la technique pour convaincre quand on est une ville organisatrice désireuse d'organiser les Jeux Olympiques ? Comment on s'y prend pour séduire 11 membres du CIO qui viennent passer 4 jours comme ça dans une ville ?
C'est la technique classique du lobbying et des petits cadeaux, des petits ou des grands cadeaux. Ouais, donc on achète les voix. Les évaluateurs du comité olympique eux-mêmes ont déjà leurs idées préalables. Donc on leur fait miroiter des avantages en termes d'image pour le comité international olympique. On leur fait miroiter effectivement des avantages sonnants et trébuchants en termes de retombées économiques, parce qu'il y a aussi des bénéfices liés au spectacle. Et ensuite, lorsque l'instance du CIO doit voter, eh bien on achète des voix. C'est pour ça que Londres a eu les Jeux avant Paris. Paris était certain d'avoir les Jeux. Tony Blair a fait monter les gens, quelques gens d'une délégation, je ne sais plus quel pays c'était, dans son hôtel, et puis il leur a passé une enveloppe. C'est comme ça qu'on achète les voix. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans l'olympisme que ça se passe comme ça. Donc, vous achetez les gens. On achète les voix. C'est comme ça que ça se passe. Les projets ne sont pas évalués du point de vue de leur mérite intrinsèque, ils sont évalués du point de vue de leur mérite stratégique. Et l'attribution des Jeux olympiques, d'été ou d'hiver, c'est toujours une proposition stratégique du comité international olympique pour valoriser son propre capital. Voilà.
Arnaud Lagardère est un homme pressé.
France 3.
Créateur du Club des entreprises, le PDG du groupe Matra Hachette a réuni 600 chefs d'entreprise désireux de soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques en 2012.
11 avril 2005.
Je fédère un certain nombre d'entrepreneurs et d'entreprises.
Arnaud Lagardère.
Qui croient dans un projet qui va pouvoir, à mon sens, donner un boost formidable à ce pays en termes de morale, en termes économiques et en termes de création d'emplois. Donc il y a trois volets qui sont essentiels dans ces Jeux Olympiques.
Si Paris est retenu comme ville organisatrice des JO 2012, les entreprises pourront profiter des retombées économiques chiffrées entre 35 et 40 milliards d'euros et génératrices de 40 000 à 60 000 emplois durables.
Tout est bon à prendre, et particulièrement ce qui peut créer des emplois, créer des richesses, amener des investissements et amener aussi du tourisme. N'oublions pas que c'est un fort générateur de tourisme, les Jeux Olympiques.
Bonjour.
Donc on passe les vigiles noirs, tous.
Voilà, alors ça c'est le samedi 12 février, c'est le dernier jour de la visite du comité d'évaluation du CIO à Annecy, et donc pour l'occasion, ce comité donne une conférence de presse pour faire un bilan, ça se passe à l'Imperial Palace, sur les rives du lac d'Annecy, avec notre super Brigot qui est là.
Je voulais vous demander, vous, Madame Lindberg et Monsieur Feli, vous qui êtes à la tête de la commission d'évaluation, je voulais vous demander, vous avez reçu l'an passé le prix de la honte. Vous avez été cinquième lauréat en raison des dégâts sociaux et environnementaux que votre organisation cause. Vous avez donc été cinquième. Est-ce que vous pensez améliorer votre score l'année prochaine? Voilà.
Je crois qu'il a été démontré dans plusieurs domaines et à plusieurs reprises la valeur que pouvaient apporter les Jeux Olympiques dans une région, tant du point de vue social qu'économique. Et je crois que les appréciations peuvent être diverses. Et il n'est pas dans l'intention du CIO de changer sa façon de voir et de faire les choses par rapport à un classement qui est fait par une organisation qui a ses propres critères qui n'ont pas été évalués publiquement.
Est-ce que je peux vous voir votre accréditation?
France Inter. Okay. France Inter. Voilà. Je fais un reportage pour France Inter sur donc la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques.
Ouais, mais j'ai pas aimé la façon dont vous avez répondu, vous avez posé votre question. Je vais pas vous répondre.
Vous allez pas me répondre? Pourquoi? Mais vous
parce pouvez que j'ai pas envie. J'ai pas aimé votre question.
Pourquoi vous avez pas aimé ma question?
Elle manquait de respect. En fait, je n'aime pas les personnes qui manquent de respect. J'aime pas la violence.
Vous avez hérité d'un garde du corps maintenant. Moi.
Vous êtes mon garde du corps?
On va le dire comme ça.
Ah, c'est pas mal.
C'est pas le CIO, c'est la CIA en fait.
Vous, vous êtes journaliste aussi?
Ouais, moi je suis journaliste pour une radio ici qui s'appelle ODS.
ODS, d'accord.
Elle était préparée cette question.
Ils ont eu le prix de la honte, décerné pas par des affreux gauchistes, hein, par la déclaration de Berne.
Quand même c'est un peu ce qu'il avait l'air de répondre. C'est un peu ce qu'il avait l'air de répondre, ouais. En disant que c'était des affreux gauchistes.
Et Greenpeace.
D'accord. Ouais, enfin Greenpeace. Donc.
Greenpeace peut-être, c'est un peu à gauche peut-être. Ah bah dis donc, je suis embêté, on peut même pas poser de questions au grand chef.
Ma mission est terminée, je m'éclipse.
Vous êtes libéré de ma garde?
Pour l'instant.
Bon. Mais vous m'avez bien gardé.
Et on sait jamais.
Bonne soirée. Bon courage, bonne soirée.
C'est dommage parce que M. Becbédé, c'est un homme passionné. Il est passionné par le lancement de nouveaux projets, il est passionné de montagne et il est pragmatique. Alors c'est quand même un peu dommage qu'on puisse pas avoir son point de vue ni sa réponse.
Monsieur Becbédé, vous avez déclaré en 2005 que vous souhaitiez un code du travail à deux vitesses. Est-ce que les Jeux Olympiques, c'est pas pour vous une espèce de réalisation d'une utopie pour se débarrasser de tous les carcans possibles?
Mais je comprends pas le rapport avec... Donc là, je peux vous parler d'Annecy. J'ai pas envie de vous parler du code du travail, monsieur.
Oui, mais pendant
un autre sujet.
Pendant les Jeux Olympiques, le code du travail est sévèrement assoupli quand même.
Ah non, pas du tout. Le code du travail reste en vigueur. Nous, on est là. Donc, on a présenté, d'ailleurs, on a expliqué comment ça fonctionnerait pendant l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et sur ce type de questions qui ont été posées, on a fourni des réponses tout à fait satisfaisantes. Il y a bien sûr des lois aussi au niveau de l'Union européenne qui permettent à des pays et des comités olympiques nationaux de venir avec effectivement leur force de travail dans des conditions qui sont celles de leur pays d'origine. mais là aussi dans certaines limites. Les contrats précaires, bien sûr, il peut y en avoir, mais quel est l'inconvénient d'avoir des contrats temporaires ? C'est quand même un job, c'est quand même du travail. Moi, je crois que c'est mieux que d'être au chômage. Là, l'avantage d'Annecy, de ces jeux, si jamais on peut les obtenir, c'est que ça va créer entre 20 000 et 35 000 emplois sur 7 ans, donc presque 5 000 emplois par an, rien que sur la Haute-Savoie. Et là, je ne compte pas au niveau Rhône-Alpes et territoire national.
Organisateurs des Jeux lorsque ça se passe nationalement. Plus le comité international olympique explique que les Jeux créent des emplois.
Jean-Marie Brôme.
Bon, créent des emplois précaires.
Professeur de sociologie à Montpellier.
Là, par exemple, pour Annecy, M. Becbédé, qui est le directeur de la commission Annecy, il explique que ça va créer entre 10 000 et 38 000 emplois.
Non, mais des emplois vacataires, précaires. Alors en France, il y a encore une relative législation du travail, mais dans d'autres pays comme la Chine, effectivement, ce sont des emplois, disons, d'esclaves, c'est l'esclavagisme. Je reviens un peu en arrière. Au moment de la campagne pour les Jeux de Paris, lorsque M. Delannoy et quelques autres avaient expliqué que Paris allait créer, je ne sais pas combien, 30 000 emplois, c'était parfaitement du bluff. Les économistes sérieux ont montré que c'était des emplois précaires, non pérennes. Non pérennes. Et que donc l'investissement public pour créer des installations sportives, ça coûtait bien plus cher à la communauté que les supposés avantages, retour sur investissement. Donc c'est chaque fois, disons, une entreprise pharaonique de prestige. Voilà, ça.
Alors sur le Code du Travail, quand même, concrètement, qu'est-ce qui change ? Est-ce que les lois du Code du Travail français sont suspendues, par exemple, si Annecy aura les JO ? Est-ce qu'on peut dire que pendant deux semaines, le Code du Travail n'existe plus ?
Je rappelle quand même que la CGT, la CFDT, à l'époque où Paris était candidate, avait expliqué qu'elle ne mettrait aucune entrave, ni grève, ni quoi que ce soit, à la réalisation des Jeux Olympiques. Donc on peut estimer qu'au nom de l'Union sacrée, les organisations syndicales seraient un peu moins, disons, vigilantes sur le droit du travail. On sait très bien que les employeurs, notamment dans le bâtiment public, ont des pratiques, disons, à la limite de la légalité, aussi bien dans la grande distribution, on le voit aujourd'hui avec Carrefour, etc. Donc le droit du travail sera respecté s'il l'est, à minima.
Bon, voilà, on est quand même un petit peu éclairé, à moitié rassuré. On est toujours avec Jean-Marie Brôme.
Pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, il y a déjà 2 millions de personnes qui ont préacheté leur ticket. Alors, à votre avis, comment on explique finalement l'attachement populaire à des événements comme les Jeux Olympiques ?
Ah oui, c'est une chose sur laquelle je travaille depuis 40 ans quand même. Moi, j'ai appelé ça l'opium du peuple. C'est-à-dire, comment peut-on expliquer également l'influence de la religion ? Donc, effectivement, c'est ça ce qu'en termes marxistes, on appelle la fausse conscience. C'est l'aliénation. Les gens n'ont pas conscience d'être alignés. C'est la pire des aliénations, d'ailleurs. C'est quand même 2 ou 3 milliards d'individus qui regardent les Jeux Olympiques. Hein. D'ailleurs, dans l'idéologie sportive, notamment chez Coubertin, notamment chez les nazis, c'est très proche d'ailleurs comme idéologie, c'est cette fascination dont parlait Coubertin, l'adulte mâle individuel. Le jeune adulte mâle, voilà. Bon. C'est effectivement le triomphe du corps. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Leni Riefenstahl sur les Jeux de Berlin. Effectivement, vous avez là des poses d'athlètes, de bellâtres, hein, de militaires, de vainqueurs. C'est la fascination, effectivement, de la toute-puissance. Mais de mon point de vue, c'est du spectacle de masse aujourd'hui. Même chose pour le football. C'est une dépolitisation de masse. Et ça permet pendant 3 semaines, on l'a vu par exemple lors des Jeux de Pékin, pendant 3 semaines, on parlait que des records olympiques. Et ce qui se passait en Chine, ce qui se passait dans le reste du monde, niet, au Darfour par exemple, vous voyez, les guerres civiles, les ethnocides, les génocides, paf. Donc pour moi, c'est ça qui est fascinant, c'est cette capacité qu'a le spectacle sportif de faire oublier aux gens leurs propres conditions. Et parenthèse, il faudrait voir aussi qui regarde les Jeux Olympiques. Hein. Ce n'est pas les populations déshéritées du subsaharien. Non, c'est effectivement la petite bourgeoisie ou les classes populaires qui disposent de la télévision. Bon. Donc c'est un matraquage télévisé. Moi, j'appelais ça naguère la chloroformisation des consciences. Et c'est pour ça que les gens à Annecy prennent conscience, en effet, que pendant qu'on parle de la candidature française et des installations françaises, etc., on ne parle pas des problèmes réels. Et les problèmes réels, aujourd'hui, en France, entre autres, et y compris Annecy, c'est le chômage, la paupérisation, éventuellement le racisme, et l'absence d'équipement collectif, et la destruction des emplois publics, et la destruction des services publics. C'est ça, le problème. Où mettons l'argent ? Moi, la vraie question est là. Où mettons l'argent aujourd'hui ? Surtout dans une période de crise sociale, une crise économique sévère, quoi.
C'est-à-dire un budget de 4 milliards qui vient de passer à 4,8 milliards d'euros.
C'est pas rien, vous voyez. Ce n'est pas rien, quand même. Hein. Avec 4 milliards, vous faites des choses, quand même. Hein. Et donc là, moi, ce que je propose, je suis évidemment favorable au comité anti-olympique d'Annecy, ce qui serait intéressant, c'est de faire des cahiers de doléances, vous voyez, des cahiers de charges sur les objectifs à atteindre en termes d'équipement public. Et voilà, en disant, pour nous, les priorités, c'est ça. Ce sont les crèches, les hôpitaux, les bureaux de poste, et ainsi de suite.
Attention, les minoritaires n'ont pas toujours tort. Il arrive que le temps leur donne raison. Merci à tous. C'était un reportage de Julien Superbrigaud. Merci à Philippe Saval, Serge Morette et Ariane Combe. Merci à Corinne Pointet, Sonia Bercani et Barbara Zafiropoulos, ainsi qu'à Jean-Marie Brome. Merci aux habitants d'Annecy et à ceux qui préparent ces Jeux Olympiques de 2018. Un papier intéressant dans Politis, les Jeux d'hiver jettent un froid. Et puis, puisqu'on est avec Politis, on a ce journal hebdomadaire organise ce jeudi une soirée débat sur le thème « La gauche française et la question coloniale de l'exemple du Cameroun au Parti communiste français et les colonies ». Le débat sera animé par Denis Siffert, jeudi 24 février au Théâtre de l'Est parisien, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Gilles Gaillard, Coy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission avec de la super belle musique, assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touillez. Attends vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et demain, si tout se passe bien, à la demande générale, nous parlerons du gaz de schiste. Vous avez fait pression, on peut dire, un vrai lobbying sur la base, j'y suis, sur un certain nombre de médias pour qu'on parle du gaz de schiste. La plupart d'entre vous n'ont jamais entendu cette expression et donc on en parlera demain, mais pour l'instant, un petit peu de réclame.
France Inter présente Ayo en tournée dans toute la France. En concert à Paris les 21, 22, 23 mars au Trianon, date supplémentaire les 4 et 5 avril. Retrouvez Ayo dans le programme musical de France Inter.
Voilà, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse où j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Maxime Debs. Salut.
Ces dernières heures, il a beaucoup fait parler les armes, mais très prochainement, c'est lui qui va parler. Muammar Kadhafi va s'adresser au peuple dans très peu de temps, si l'on en croit une information diffusée il y a moins d'une heure par la chaîne Al Arabiya qui cite la télévision libyenne. En fait, en quelques minutes à peine, les choses semblent se accélérer. À Tobrouk, à l'est du pays, des soldats libyens disent apparemment ne plus soutenir Kadhafi et affirment que la région lui échappe. Du coup, le colonel semble s'être résolu à sortir de son silence. À Tripoli, les violences ont atteint depuis 24 heures un niveau invraisemblable. L'armée libyenne a tiré à l'aveugle sur les manifestants. Les ONG parlent de centaines de morts. L'une d'elles, cet après-midi, raconte qu'une morgue pouvant contenir 750 cadavres a été aménagée près de l'hôpital de Tripoli, ce qui témoigne de la cruauté des actes commis. Inquiet de la situation, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'entamer une réunion de crise à New York. Et il y a un marché qui s'affole également avec ses troubles en Libye, c'est bien sûr celui du pétrole. À New York, toujours à l'ouverture de la bourse, fermée la veille, son prix a augmenté de 8% aujourd'hui. En France également, le litre de gazole à la pompe dépasse désormais 1,30€, un niveau jamais atteint depuis près de 3 ans. Pendant ce temps, toujours en France, c'est le prix d'une autre source d'énergie qui s'apprête à augmenter, celui du gaz. Attendez-vous à une hausse au 1er avril. Le ministre de l'Énergie, Éric Besson, admet que c'est à l'étude. Le Figaro parle d'une augmentation de l'ordre de 5%. UFC Que Choisir s'indigne et appelle l'État à empêcher une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des Français. À Lille, une disparition inquiète les autorités, d'autant que ce n'est pas la première. Depuis dimanche, elle recherche notamment un jeune garçon de 22 ans qui n'a plus donné signe de vie. Donc depuis dimanche, Cécile Bidot.
Depuis hier, les policiers ratissent le secteur entre le Vieux-Lille et l'Esplanade. L'Esplanade, le long du canal de la Deule, c'est ici qu'est vu Jean-Mériadec Le Tarnec pour la dernière fois. Cet étudiant en droit de 22 ans revient d'une fête, il est 6h du matin. Il rentre chez lui, où il n'est jamais arrivé. Son téléphone portable est sur messagerie, il n'a donné aucun signe de vie. Même scénario il y a 15 jours. Le 4 février, Thomas Ducrot, 26 ans, sort d'un bar du Vieux-Lille. Il part à pied, il n'est pas réapparu. Même si les enquêteurs ne font pas officiellement le lien entre les affaires, les coïncidences sont troublantes, les circonstances, le physique et l'âge des jeunes hommes. Et puis il y a cette autre disparition en octobre, celle de John Annie. Lui avait 33 ans, il revenait également d'une fête et son corps a été retrouvé dans la Deule. Sa famille espère beaucoup de cette ouverture d'enquête conjointe pour les trois affaires. Lille, Cécile Bideau, France Bleu Nord pour France Inter.
Voilà, il y a du football au programme ce soir. Lyon, Real Madrid, pour la 7e fois de leur histoire, les deux clubs vont s'affronter en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Par le passé, le duel a souvent tourné à l'avantage des Lyonnais. Coup d'envoi prévu à 20h45.
Cette semaine dans le Pont des Artistes, Isabelle Dorna reçoit Kerenan, Applause. Et Eric Truffat.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter présente True Grit, le nouveau film de Joel et Ethan Coen, 10 nominations aux Oscars. Avec Jeff Bridges, Matt Damon et Hailee Steinfeld.
What's your name?
My name is Maddie Ross.
Une adolescente téméraire à la recherche du meurtrier de son père, un Marshall Borgne et un ranger texan un tantinet prétentieux forment le trio de True Grit, le western des frères Cohen, au cinéma le 23 février. Retrouvez True Grit dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h passé de 4 minutes sur France Inter, l'heure de se retrouver au carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon.
Bonjour Maxime. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Le chef d'orchestre Claudio Abbado, après une magnifique carrière, nous fait des signes. Il offre ces jours-ci un disque Jean-Sébastien Bach. Ça n'est pas tellement son genre, au fond. Il s'est consacré plutôt à des grandes pièces pour orchestre, les symphonies de Mahler, des pièces un peu puissantes, les symphonies de Brahms, ou des compositeurs modernes du XXe siècle. Et puis là, il revient vers l'intimité, en quelque sorte, avec l'orchestre Mozart, consacré à, en principe, évidemment, ce magnifique compositeur, Mozart lui-même, mais on a pu entendre aussi des pièces de Schubert, des pièces de Haydn ou de Beethoven. C'est un orchestre qui s'est rassemblé par affection, par amitié, en cooptation, comme on dit, c'est-à-dire des jeunes qui se sont choisis avec quelques instrumentistes un peu plus expérimentés. Et on a l'impression que Claudio Abbado, qui a été malade, qui a résisté au cancer et qui est toujours bien avec nous, heureusement, là, eh bien, il se sent en famille, il s'exprime très librement, il n'y a pas la grande machine de l'orchestre installée, et ça fait pas mal de disques qu'il nous propose. Les concertos brandebourgeois, composés par Jean-Sébastien Bach en 1721, probablement, en tout cas, terminés à cette époque-là. Après un voyage, il avait rencontré un fameux margrave de Brandebourg, l'oncle du roi de Prusse, Frédéric Guillaume. Donc le margrave, c'était un noble personnage, un guerrier, chargé de défendre les frontières. Et il lui a envoyé la version définitive de 6 concerts avec plusieurs instruments. La dédicace est en français, d'ailleurs. Et en espérant peut-être que le margrave de Brandebourg allait soit les faire jouer, soit peut-être un jour même proposer un emploi à Jean-Sébastien Bach, qui pensait bien, il avait raison d'ailleurs, que la vie était quelquefois fragile. En attendant, c'est un bouquet de pièces très différentes où Bach expérimente des combinaisons très différentes aussi, et des instruments qui sont mis en valeur, chacun selon ses capacités. C'est une forme d'étude, évidemment, mais une étude toujours vivante, toujours dynamique, parfois dansante, enfin bon, comme toujours chez Bach, il y a la puissance du cerveau, il y a la puissance de la conception, et toujours, quand même, la vitalité, la joie de vivre même, on peut le dire, comme dans l'Allegro de ce premier concerto en fa majeur.